Bonjour à tout le monde. Là, nous avons déjà bien exprimé notre reconnaissance à Dieu et nous l'avons bien loué par nos chants, nos prières, en prenant la Sainte Cène ensemble. C'est déjà été un moment très réjouissant et plein d'encouragement. Mais si ce matin je vous ordonnais de vous réjouir, si je vous commandais de chanter avec allégresse vers Dieu, de vous pousser des cris de joie vers lui, qu'est-ce que vous penseriez? Et si je vous encourageais vivement à regarder à votre passé et à en tirer des leçons aujourd'hui, à changer d'attitude, qu'est-ce que vous penseriez? Vous diriez peut-être, mais quel culot il a lui, ce Alex, de me parler comme ça. Et il ne sait pas ce par quoi je passe à l'instant même, les difficultés par lesquelles je passe. Et il ne connaît certainement pas mon passé. Comment est-ce qu'il peut m'ordonner de me réjouir? Et comment est-ce qu'il peut m'encourager à prendre des leçons du passé? Alors, je reconnais que c'est vrai, je n'ai pas le droit de moi-même de vous commander de vous réjouir et de louer Dieu. Mais nous allons voir dans le psaume 81 que tout comme Dieu appelait son peuple à se réjouir en chantant d'allégresse, en se réjouissant, en criant de joie vers lui, en se rappelant de son salut passé, Dieu nous appelle nous aussi à nous réjouir, à louer, à crier de joie vers Dieu pour son amour, pour son salut en Jésus. Et tout comme il a plaidé avec urgence et avec grande compassion pour que Israël apprenne de son passé et pour qu'il change d'attitude, il fait de même avec nous ce matin. Et ceci pour notre propre bien. Alors avant que nous lisions ce psaume, tournons-nous vers Dieu dans la prière. Seigneur Dieu de l'univers, nous te remercions pour ce psaume que tu as inspiré, par lequel tu veux nous enseigner, nous corriger, nous encourager et nous éduquer dans la justice pour nous enraciner dans la foi en Jésus et pour nous équiper pour toute œuvre bonne. Notre Père, nous te prions que tu changes nos pensées et nos cœurs et par la puissance de ton esprit, alors que tu nous parles par ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors ouvrons nos Bibles à la page 395, où se trouve le psaume 81. Et lisons. Au chef de chœur sur la guitite d'Azaph. Chantez d'allégresse vers Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant les défauts des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant j'humilierais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur blé et je le rassasirai de miel sauvage. Alors, dans ce psaume, on retrouve deux sections, deux temps qui sont rythmés par une pause qu'on retrouve à la fin du verset 8. Et dans un premier temps, le peuple d'Israël est appelé à se réjouir en se rappelant du salut de Dieu. Et dans un deuxième temps, par le psalmiste, Dieu appelle, exhorte son peuple à apprendre du passé et à changer d'attitude, à se repentir. Alors en étudiant ce psaume, j'ai trouvé qu'il ressemble un peu à certains films qui m'arrivent de regarder. C'est comme si on était dans un film qui commence au présent. Alors, vous pouvez peut-être fermer vos yeux pour imaginer un peu le tournage, les scènes, le film. Et dans ce présent, il y a un homme qui se trouve devant une grande foule de personnes. Et il donne un ordre à cette foule de personnes, il crie, il les appelle à faire la fête et à se réjouir. Et pour leur expliquer pourquoi ils doivent se réjouir et faire la fête, cet homme fait un retour en arrière. C'est comme si on voyait des images du passé, l'histoire du passé, un feedback, un retour vers le passé. Et ainsi, il leur rappelle le grand événement pour lequel ils doivent tellement se réjouir, la délivrance, la grande délivrance d'Égypte. Mais ça ne s'arrête pas là. Cet homme va plus loin, il continue dans l'histoire du passé, mais sur un autre ton. Et c'est le deuxième temps de ce psaume. Il leur rappelle les grosses erreurs qu'ils avaient commises après cette grande délivrance. Et il termine à nouveau au présent. On termine le film au présent. Et il les exhorte à nouveau. Il les exhorte avec compassion, avec grande insistance, à apprendre du passé et à changer d'attitude, à se repentir. Et ceci pour leur bien. Pour commencer, considérons le premier temps, considérons les 8 premiers versets de ce psaume, où Dieu dit à son peuple, réjouissez-vous devant le salut de Dieu. Alors, vous avez vu l'appel insistant au peuple de se réjouir et de faire la fête, je suppose, dans les 4 premiers versets. Et c'est armé de son instrument, la guitite, que le prêtre chef du temple appelle tout le peuple au verset 2 à chanter avec allégresse et pousser des cris de joie vers Dieu. Il leur dit de faire résonner tous leurs instruments et de sonner la trompette au début du mois. Et en lisant cela, on se rend compte à quel point ça devait être une fête grandiose, une fête énorme, pleine de joie. Et ça l'était en effet. En fait, comme le verset 5 et 6 nous disent, c'était même une prescription, c'était une règle que Dieu avait donnée à Israël après les avoir délivrés lui-même d'Égypte par sa grande main puissante. C'était donc une fête que Dieu leur avait commandé de célébrer, d'observer. En effet, on retrouve cet ordre d'observer cette fête qui s'appelait en fait la fête des tentes, notamment en Lévitique 23. Et selon l'ordre du Seigneur, au début du septième mois, le premier jour, il devait sonner de la trompette. Et à partir du 15e jour de ce septième mois, à la pleine lune, les Israélites devaient célébrer cette fête des tentes, en vivant pendant 7 jours sous des tentes. Alors c'était une grande fête de réjouissance. Peut-être en pensant devoir aller dans les tentes pendant 7 jours, on se dit pas c'était très réjouissant ça. Mais pour eux, oui, c'était une grande fête de réjouissance. Parce qu'ils se rappelaient que Dieu les avait délivrés d'Égypte, de sa main puissante, de l'esclavage du pays d'Égypte. Il dit au verset 7 et 8, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. C'est une fête pleine de joie, remplie de joie, qui leur rappelait que Dieu les avait conduits dans le désert, où ils avaient fait habiter dans les tentes, où il les avait protégés, où il avait pourvu à tous leurs besoins gracieusement. Et cette fête était une prescription pour que leurs enfants n'oublient pas cette grande libération, ce grand salut de Dieu. Alors c'est peut-être difficile pour nous d'imaginer à quel point cette fête était grande et toute la joie qu'il y avait. Mais imaginez-vous un instant que vous êtes esclave dans un pays hostile et sous des conditions horribles. Et ceci dure depuis 400 ans. 400 ans. Et vos parents étaient esclaves, vos grands-parents étaient esclaves, etc., etc. Alors le jour où Dieu vous délivre de ce pays, pour vous emmener vers un pays plein d'abondance, un beau pays, et qu'il vous commande de célébrer ce salut, cette délivrance, alors c'est une grande fête, n'est-ce pas? Une fête pleine de joie. En fait, ce psaume n'était pas un psaume destiné seulement à ces gens qui sortaient d'Égypte, mais il était aussi destiné à ceux qui sortaient de l'exil, plus de mille ans plus tard, qui revenaient de Babylone. Exil durant lequel ils avaient vécu des choses bien similaires à ce qui s'était passé durant l'épisode en Égypte. Et du coup, cette fête des tentes devait certainement être une très grande fête pour ces gens qui étaient revenus d'exil plus de 1000 ans plus tard. Bon, alors en entendant parler de tout ça, on pourrait se dire, oui, on peut se réjouir grandement pour ces Israélites qui étaient libérés de l'esclavage, de l'hostilité de leurs ennemis. Mais on pourrait en même temps se demander, mais quelle est la pertinence de tout ceci pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? En fait, le Nouveau Testament nous dit que l'Exode, cette délivrance d'Égypte qui devait réjouir et pousser les Israélites à se réjouir, à pousser des cris de joie, à louer Dieu pour son salut. En fait, cette délivrance n'était qu'une ombre, qu'une petite figure de la délivrance, du salut que Jésus est venu offrir. En effet, sans Jésus, chaque homme et chaque femme est esclave non pas d'un peuple hostile et terrible, mais de la puissance du péché, par lequel chaque homme et chaque femme se rebelle contre Dieu, et ceci en vivant selon ses projets à lui ou à elle, et non pas les projets de Dieu. Et on ne fait pas face à la menace d'un pays terrible, mais on fait face à la juste colère de Dieu, au juste jugement de Dieu que l'on mérite à cause de notre rébellion contre lui. Et dans son amour, Dieu a accepté d'envoyer Jésus-Christ dans le monde pour offrir la délivrance, ce grand salut par sa mort à la croix. Jésus a accepté de prendre le jugement que chacun de nous mérite pour offrir la délivrance, le grand salut, dont cette délivrance d'Égypte n'est qu'une faible figure. Alors, je ne sais pas vous, mais dans l'euphorie d'un match, je suis souvent hyper enthousiaste de voir mon joueur de tennis favori. J'ai regardé Roland Garros et puis Federer là à Wimbledon. J'étais vraiment dans l'euphorie et Sarah pourrait vous en témoigner. Je criais, etc. Et peut-être vous, ça vous arrive quand vous regardez votre équipe de foot favorite ou votre chanteur favori. Parfois, on les encourage avec de la peinture sur les visages et avec des cris de joie et d'allégresse, et surtout quand ils font des grands exploits. Mais quand on y pense, ces événements-là sont comme des peanuts, ce qu'on ne dit rien par rapport au salut de Dieu en Jésus-Christ. Si on est croyant, on a une motivation, une raison bien plus grande de crier de joie et de chanter d'allégresse. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous libérer du péché et pour nous réconcilier avec Dieu pour toujours. Quel grand amour, quel salut merveilleux, quelle joie c'est d'être pardonné, d'être réconcilié avec Dieu grâce à Jésus-Christ. Si par contre vous êtes plutôt sceptique par rapport à la foi ou vous êtes en recherche, vous ne savez pas trop quoi penser par rapport à la foi chrétienne, bien sachez que vous pourriez vous aussi connaître cette joie d'être réconcilié avec Dieu. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est reconnaître votre culpabilité devant Dieu, de l'avoir rejeté et de vous être rebellé contre lui. Et vous confier en Jésus et en Jésus seul. Jésus qui a accepté de prendre la place d'homme et femme pécheur à la croix. Cette joie de ce grand salut est disponible pour vous dès aujourd'hui. Et ceci, quoi que vous ayez fait. Alors, en voyant ce commandement de se réjouir, de chanter avec joie vers Dieu dans ce psaume, je ne sais pas vous, mais j'ai trouvé ça fort. Dieu commande, il ordonne. Et peut-être qu'on n'aime pas qu'on nous donne des ordres. Ce qui n'est pas forcément juste, parce que ce n'est que normal qu'on loue et qu'on remercie et qu'on chante d'allégresse vers Dieu qui sauve, un Dieu qui sauve d'une telle manière. Il est vrai que dans le Nouveau Testament, il y a pas d'ordre spécifique à observer des fêtes particulières, des fêtes spécifiques. Mais cet appel, ce commandement de se réjouir et de chanter à Dieu avec allégresse, de pousser des cris de joie pour son grand salut en Jésus, il est bien présent dans le Nouveau Testament, en fait. Par exemple, en Éphésiens 5, au verset 19, l'apôtre Paul dit « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des chants, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » C'est un ordre. Et en Éphésiens 4, verset 4, Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Ainsi, il est bien séant, il est bon pour notre âme de nous efforcer, de nous rappeler du grand salut de Dieu en Jésus-Christ et de nous réjouir, de chanter les louanges du Seigneur. Mais quand on y pense, on a parfois pas trop envie, on n'a pas le cœur à se réjouir. Il y a parfois des raisons pour lesquelles la réjouissance est difficile, n'est-ce pas? Par exemple, quand on fait face à son péché qui nous attriste, quand on souffre, et quand on est persécuté à cause du fait même d'être croyant, au boulot, dans le quartier, avec nos amis ou dans la famille. Mais pourtant, même dans ces moments-là, on a de quoi se réjouir. Pas d'une réjouissance superficielle, non. On a de quoi se réjouir si on est croyant. Et c'est notamment ce qu'on a vu en 1 Pierre, n'est-ce pas? Où Pierre dit aux croyants, aux chrétiens qui souffrent, que même si, oui, on peut être attristé par diverses épreuves, et en fait, on a vraiment de quoi se réjouir à cause du salut merveilleux de Dieu en Jésus. Voici ce qu'il dit à ces croyants qui souffrent. Vous l'aimez, c'est-à-dire vous aimez Jésus, sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Ainsi donc, si vous êtes croyant et si vous souffrez pour une raison ou une autre, oui, entourez-vous de frères et sœurs qui pourront vous soutenir dans ces moments difficiles et prier pour vous. Mais rappelez-vous que nous avons de quoi nous réjouir malgré ces épreuves, ces difficultés. Nous avons un sujet de joie malgré tout. Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu pour toujours. Et Christ est ressuscité. Et par sa résurrection, il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, pour un héritage futur glorieux. Nous avons vraiment de quoi nous réjouir. Spurgeon, un pasteur du 19e siècle, était un chrétien qui passait souvent par des moments de dépression. Mais celui-ci s'efforçait de lire la Bible régulièrement pour se rappeler de ce salut vers lequel la Bible pointe sans cesse. Et d'une certaine manière, il se commandait à lui-même, à son âme, de se réjouir du salut de Dieu que Dieu lui avait offert par la mort de Jésus-Christ à la croix. Personnellement, je trouve que ce serait une bonne idée pour moi de faire la même chose, de prendre cette habitude que Spurgeon avait tous les jours. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait peut-être bien pour vous aussi de faire cela. Pourquoi ne pas régulièrement faire comme le roi David au psaume 103, qui commandait à son âme de bénir l'Éternel pour le pardon de ses péchés? Par exemple, on pourrait chanter avec allégresse, crier des cris de joie vers Dieu pour le pardon qu'on a en Jésus chez nous. On pourrait faire la même chose que justement David, au psaume 103. On pourrait prier des prières de joie et de reconnaissance après s'être ordonné, les versets 1 et 3 du psaume 103. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Verset 10, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Avant de passer à la deuxième moitié de ce psaume, il faut noter que Dieu ne voulait pas seulement que les Israélites se réjouissent individuellement en se rappelant de ce salut passé, mais il voulait qu'ils le fassent ensemble. C'était une fête qu'ils devaient célébrer ensemble. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, où les croyants sont eux aussi appelés à chanter avec joie et reconnaissance vers Dieu pour son salut en assemblée. Et c'est quelque chose qui est fort, c'est souvent, et c'est même presque la plupart du temps, en assemblée qu'on est commandé de faire cela, de se réjouir et de chanter à Dieu. En effet, nous, on lit en Colossiens 3, au verset 16, l'ordre suivant. « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. » Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Ainsi, on devrait considérer nos réunions du dimanche matin, un peu comme cette fête des tentes, cette grande fête des tentes, où on se rappelle ensemble et les uns des autres du salut de Dieu en Jésus, par des chants, par des prières, par des cantiques, par des psaumes. Et durant ces réunions, on chantera pour le Seigneur, on chante, on a chanté aujourd'hui, on chante pour le Seigneur de tout notre cœur, sous l'inspiration de la grâce, c'est-à-dire motivé et émerveillé tout à nouveau par le salut de Dieu en Jésus. Et du coup, on devrait être assidus à nos rencontres du dimanche matin. Et ceci pour être encouragés nous-mêmes et pour encourager les autres à persévérer dans la foi et aussi à se réjouir de ce salut et à chanter ce salut par reconnaissance à Dieu. Est-ce que vous réalisez quel grand ministère nous avons, chacun d'entre nous, en venant le dimanche matin? Par ce psaume, Dieu nous le rappelle et il nous invite à le remplir avec sérieux, mais avec grande joie. Oui, il est temps de passer à la deuxième moitié, au deuxième temps de notre psaume, où le psalmiste continue à parler à Israël de son passé, mais ceci sur un autre ton, parce qu'il a un objectif différent. En gros, il leur dit « Apprenez du passé, écoutez Dieu et repentez-vous ». C'est ce qu'on voit au verset 9 et 14, n'est-ce pas? Où il dit « Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement il marchait dans mes voies. » Alors, dans ce deuxième temps, si Dieu exprime son désir profond que Israël l'écoute désormais, c'est pour qu'il se soumette à lui dans la confiance et pour son bien-être. Au verset 10 et 11, Dieu rappelle les deux premiers commandements. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, si vous avez un peu de connaissance dans l'Ancien Testament, peut-être que vous avez remarqué les deux premiers commandements qu'il leur avait donnés juste après les avoir délivrés d'Égypte, justement. qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. En fait, selon la loi de l'Ancien Testament, et surtout en Deutéronome, si Israël se soumettait à Dieu dans la confiance, s'il lui obéissait en se confiant en sa bonté, alors Dieu, dans son amour, il allait les protéger de leurs ennemis. Il allait les bénir. Mais il leur avait aussi prévu dans cette loi qu'il les jugerait s'ils ne l'écoutaient pas, s'ils ne se soumettaient pas à lui. Qu'il les abandonnerait au penchant de leur cœur et qu'il les maudirait, notamment en les envoyant en exil dans un pays lointain, dans le pays lointain de leurs ennemis. Et c'est exactement ce qui est arrivé en fait, comme nous le rappellent les versets 12 et 13. Mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi. Alors je l'ai livré au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Ainsi, Israël a subi le jugement de Dieu en étant exilé, emmené en Babylone et dans un pays lointain pour vivre une vie de misère loin de Dieu. Mais alors qu'ils lisent ce psaume, alors qu'ils sont de retour dans leur pays, après la grande tragédie qui a été provoquée par leurs erreurs du passé, Dieu les avertit à nouveau. Et en fait, il ne les avertit pas d'une manière, en les jugeant de manière sèche et dure. Non, il plaide avec son peuple, avec urgence et grande compassion, en leur disant en gros, si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement il m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, je les protégerai de ses ennemis. Je détruirai ses ennemis pour toujours. Je le protégerai. Je le bénirai abondamment. Et je leur donnerai ce qu'il y a de meilleur. En effet, il lui avait promis qu'il rendrait son pays prospère, de sorte qu'il les rassasierait, littéralement, de miel sauvage et du meilleur blé. Il lui ouvrirait la bouche et la remplirait. Ainsi Dieu voulait qu'Israël apprenne de ses erreurs du passé, qu'il l'écoute et qu'il se repente en pensant à ce passé, et qu'il désormais il se soumette à lui dans la confiance, en sachant que leur Dieu, qui est plein de compassion et d'amour, eh bien il les garderait près de lui et les bénirait abondamment. Et comment comprendre ces versets pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on devrait essayer d'obéir à la loi pour être béni par Dieu? Non, dans la Bible, c'est clair. Dieu nous dit que cela est impossible. Tous, hommes et femmes, ont péché et méritent son jugement. Comme nous avons tous obéi, c'est impossible de nous racheter nous-mêmes. En fait, la Bible nous dit que seul Jésus a réellement écouté Dieu, alors que nous ne l'avons pas écouté. Et seul lui a obéi à Dieu, alors que nous avons tous désobéi à Dieu. Et du coup, si nous nous confions en Jésus, c'est celui qui est le seul obéissant, et si nous nous confions en lui seul, son obéissance est comptée comme étant notre obéissance. Et c'est porté à notre compte. Alors que lui a subi la punition que notre désobéissance mérite, il a accepté de prendre notre place. De sorte qu'on a l'espérance d'un bonheur à qui durera pour toujours avec lui quand il reviendra. On connaîtra la bénédiction abondante et parfaite. Il habitera lui-même au milieu de son peuple, au milieu de nous, si nous sommes croyants. Et il essuiera toute larme. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni souffrance, car ce qui existait auparavant aura disparu. Il n'y aura plus de malédiction et tous ses ennemis seront jetés dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Et puis l'arbre de vie sera là. Et son peuple sera nourri de ses fruits abondants chaque mois, d'éternité en éternité. Et ses feuilles de cet arbre de vie seront pour la guérison des nations. Et nous serons pour toujours avec Dieu lui-même dans la joie, une vie abondante, éternelle, avec lui et l'agneau que l'on verra face à face. En fait, le passé d'Israël n'était pas seulement un avertissement pour les Israélites eux-mêmes, mais il est aussi pour chacun d'entre nous. Selon 1 Corinthiens 10, Israël est un exemple que nous ne devons pas suivre. Et son jugement, c'est un avertissement, parce que c'est encore une fois une ombre du jugement éternel qui est à venir. Et cet avertissement devrait nous pousser à ne pas nous rebeller contre Dieu, mais à l'écouter attentivement. Alors que nous soyons croyants ou non, il nous faut prendre cet avertissement au sérieux. Si vous êtes croyant, mais par exemple, vous voulez vivre à votre manière dans un domaine spécifique de votre vie et ne plus vous soumettre à Dieu dans l'obéissance de la foi en Jésus, prenez au sérieux cet avertissement. Dans la vie chrétienne, on continue exactement comme on a commencé. Il nous faut continuellement écouter Dieu. Il nous faut continuellement nous repentir de nos péchés et nous confier en Jésus et en Jésus seul. Et aussi nous soumettre à la volonté de Dieu en tant que personne rachetée. Alors, je connais une femme qui se disait chrétienne il y a quelques années, qui était très zélée. Mais à un moment donné, elle a abandonné la foi pour vivre dans une relation comme bon lui semblait et contre la volonté de Dieu, clairement. Et à ce que je sache, elle ne s'est pas repentie en se retournant vers Christ dans la foi et l'obéissance. Et en rejetant Dieu, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle rejetait le salut disponible en Jésus et toutes les futures bénédictions abondantes qu'il offre en lui. Et ceci comme Israël l'avait fait, exactement de la même manière. Peut-être vous êtes pour l'instant tenté de vous éloigner de Dieu. Peut-être vous êtes actuellement en train de penser à laisser tomber la foi, pour abandonner votre famille et aller avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être pour une autre raison. Ou vous pensez peut-être aller dans une autre église où l'on permet de vivre de manière soi-disant plus libre, mais qui est clairement porte-à-faux avec ce que la Bible nous enseigne et qui est un péché. Et en fait, cette manière de vivre nous rendrait plutôt esclaves du péché. Bien, faites attention. Ce passage nous avertit. Ce passage vous avertit. Qu'il faut écouter Dieu et se repentir en se confiant dans le salut de Dieu. Restez ici ou allez peut-être dans une autre église où on entend clairement la voix de Dieu, et ceci pour votre propre bien. Alors si vous n'êtes pas croyant, si vous êtes sceptique ou en recherche, alors apprenez vous aussi du passé d'Israël, et ceci pour votre propre bien éternel. Par ce psaume, Dieu vous appelle, vous aussi, avec urgence et grande compassion, à l'écouter, à vous repentir de votre rébellion contre lui et à embrasser Jésus, à vous confier en Jésus, dans le salut qui est disponible à la croix. En tout cas, quelle que soit notre situation, le désir de Dieu ce matin, c'est que nous nous réjouissions devant ce salut merveilleux qui est disponible en Jésus, et que nous apprenions du passé d'Israël afin de l'écouter et d'être bénis éternellement. Prions ensemble pour terminer. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, quel grand salut en Jésus. Grâce à lui, Nos péchés sont éloignés de nous comme l'Occident l'est de l'Orient. Seigneur, merci pour ce grand salut que tu as offert il y a 2000 ans. Seigneur, nous voulons te crier des cris de joie dans nos cœurs ce matin. Nous voulons élever ton nom, nous voulons te louer pour qui tu es. Loue l'Éternel, mon âme. Que nos âmes te louent pour toujours, quelles que soient nos circonstances. Parce que nous avons un grand sujet de joie. Et Seigneur, merci aussi pour cet avertissement que tu nous donnes par amour, par compassion. Seigneur, donne-nous des cœurs qui t'écoutent. Garde-nous de nous dévier de toi. Et ceci, merci et merci pour cette espérance future glorieuse que nous avons grâce à Jésus seul. Nous élevons ton nom ce matin et nous te louons. Au nom de Jésus. Amen.